Alors, on est en ligne avec David Lefrançois, qui est coach et spécialiste de neurosciences. Bonjour David, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, on a une étude israélienne qui est parue cette semaine, David, et qui raconte que l'intelligence artificielle s'inspire du cerveau humain. Alors, comment elle fait ça et de quoi elle s'inspire ?
En fait, comment elle fait ça? Elle fait ça en observant les interactions neuronales que nous pouvons avoir. C'est-à-dire, en fait, chaque réaction, chaque mode de fonctionnement du comportement humain est codifié, organisé, structuré dans le cerveau d'une certaine façon. Et en fait, depuis les IRM, depuis les électroencéphalogrammes, on commence à savoir quelle partie est impliquée dans chaque geste, chaque comportement ou chaque prise de décision, voire chacune de nos émotions. Et du coup, en fait, le principe, c'est de modéliser, c'est-à-dire d'observer comment ça fonctionne et de le reproduire ensuite. Vous avez un modèle, par exemple, qui a extrêmement bien fonctionné, qui était l'une des premières modélisations dans le domaine, c'était Facebook. Facebook, en fait, s'est développé. Il faut savoir que Zuckerberg, il avait reçu un cours sur le développement de l'économie neuronale. Alors, c'est un cours qui existe à Harvard et qui explique comment finalement, le cerveau se connecte pour augmenter ses connexions, et plus il augmente ses connexions, plus il augmente son pouvoir. Et en fait, Zuckerberg, suite à ce cours, s'est dit, mais finalement, il faut augmenter aussi nos connexions. Et pour augmenter le pouvoir, il a demandé au professeur comment finalement les neurones rentraient en contact entre elles, et il a reproduit exactement le même modèle avec Facebook. C'est comme ça qu'on a quelque chose de pyramidal dans Facebook. Donc, c'est pas la première fois que ça fait longtemps que le cerveau il est modélisé, que ce soit pour les achats, dans le neuromarketing ou autre. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui y va. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement efficace. L'inconvénient, c'est que c'est extrêmement efficace. Voilà.
Est-ce que le cerveau humain, David Lefrançois, il peut concurrencer cette intelligence artificielle ou est-ce qu'on est vraiment dépassé déjà?
Alors, la vraie question, il faut l'inverser en fait. Est-ce que l'intelligence artificielle peut concurrencer le cerveau humain? Alors, somme toute, non. Il y a des capacités de calcul aujourd'hui qui sont extrêmement fortes, qu'on n'avait pas il y a quelques années, ça c'est certain. Et puis, on a maintenant des machines auto-apprenantes. Ça, c'est aussi la grande nouveauté de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'être humain qui donnait les données et il s'inspirait d'eux. Maintenant, on a des machines auto-apprenantes sans aucune limite. Mais force est de constater, c'est qu'on n'a pas encore intégré la notion de comment modéliser l'intuition, comment mobiliser un ressenti. Et ça aussi, c'est important, parce que parfois, dans une interaction humaine, vous le savez bien tous, la personne a beau nous dire quelque chose, on ne le sent pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste interpréter des mots ou des séquences de phrases. Il va y avoir l'observation non-verbale, et puis parfois aussi, une dimension qui est une dimension vibratoire. Et ça, une fois encore, cette dimension vibratoire, l'ordinateur, il n'est pas prêt de l'avoir. Donc, l'IA ne pourra jamais concurrencer, mais il pourra sustenter d'une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il pourra remplacer des fonctions que nous avons, nous, des fonctions humaines, prises en charge par l'IA. Ça, c'est une évidence. Ça va arriver, qu'on le veuille ou pas.
Comment on fait, David Lefrançois, pour apprendre des nouvelles choses sans écraser ce qu'on sait déjà? Parce que l'ordinateur, lui, il apprend et après, il écrase. Et nous, en termes de cerveau, comment on fait?
Nous, on n'écrase rien du tout. Vous devez savoir que depuis vos 2 ans, chaque seconde de votre vie est enregistrée dans votre cerveau. Donc, en fait, on n'a pas une dimension limitée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie dans le cerveau qui correspondrait, par exemple, à la mémoire vive ou la mémoire morte de l'ordinateur. La mémoire est beaucoup plus complexe que ça. On pensait dans le temps que la mémoire était située dans une partie du cerveau. Pas du tout. Elle est située dans tout le cerveau et elle dépend des interactions. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que plus quelque chose est lié à l'émotion et plus on le mémorise. C'est pour ça que la plupart des auditeurs connaissent tous ce qu'ils faisaient le 11 septembre, par exemple.
Ouais.
Okay, dès qu'il y a une charge émotionnelle forte, on s'en rappelle. Donc on n'a pas cette capacité limitée. Mais par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que moins on utilise notre capacité de mémoire, et moins elle est efficace. Donc, en fait, la plupart des personnes qui disent « Non, mais je suis limité dans mes mémoires, ou j'arrive plus à apprendre, ou j'ai du mal à retenir quelque chose », c'est qu'en fait, ils n'utilisent pas leur mémoire au quotidien, ils ne l'entraînent pas. Donc, cette mémoire, elle ne se développe pas, tout simplement. Voilà. On appelle ça la fonction d'élagage dans le cerveau, en neurosciences. C'est-à-dire que moins on utilise une fonction, et moins elle est opérationnelle. C'est pour ça que, par exemple, il y a des personnes qu'on retrouve, ça leur est arrivé de retrouver, par exemple, la fonctionnalité d'un membre après quelques années. Parce qu'à l'époque, on leur avait dit, après un accident, vous ne retrouverez plus ce membre. Donc, les personnes n'ont fait aucun effort. Et dès qu'on stimule le membre d'une certaine façon, eh ben, les connexions neuronales se réactivent et finalement, on s'aperçoit qu'on avait la mobilité. Donc, c'est important de faire travailler notre mémoire, de faire travailler notre cerveau, de le garder actif pour que justement tout ça puisse continuer à fonctionner.
Ma dernière question, David Lefrançois. Le cerveau, souvent, vous parlez de plasticité. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs de quoi il s'agit ?
Ouais, la neuroplasticité, en fait, vous devez savoir que votre cerveau, c'est pas une chose qui est définie et informe. C'est quelque chose qui bouge en permanence et qui se structure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à chaque fois que vous allez, par exemple, penser à quelque chose, travailler sur de nouvelles idées, à mettre en place un nouvel apprentissage, vous allez développer dans certaines parties du cerveau de nouvelles connexions qui vont se renforcer entre elles. Et ces nouvelles connexions, en fait, nous permettent de développer plein de choses. Donc, c'est ça qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que le principe, c'est comme un petit peu de la pâte à modeler. Plus on la prend, on la modèle, on la travaille et on donne des formes. Bah, c'est un petit peu ça, la neuroplasticité. C'est-à-dire que, en fait, arrêtons de croire que le cerveau, c'est quelque chose qui est défini. C'est quelque chose que nous définissons et que nous faisons grandir au quotidien, au fil du temps, à travers toutes nos interactions. Donc, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, en fait, vous renforcez certaines connexions neuronales, vous renforcez des zones neuronales, et cette fonction de changement s'appelle la neuroplasticité.
Merci beaucoup, David Lefrançois, d'avoir été avec nous ce matin. On n'a pas avec eu beaucoup plaisir. De temps parce qu'on a eu du mal à vous connecter. On vous réinvitera bientôt. Je rappelle que vous êtes coach et spécialiste en neurosciences. À très vite.
Au revoir à tous.